Bonjour Idem Kadri.
Bonjour.
Alors Bertrand Piccard, vous l'avez fait en ballon, vous l'avez fait en avion électrique, vous allez maintenant le faire en avion à hydrogène, le tour du monde. En quoi c'est une exploration, un défi qui va ouvrir de nouveaux horizons?
Vous savez, je ne supporte plus l'éco-pessimisme ambiant. Entre ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème et ceux qui disent que les problèmes sont insolubles, on n'avance pas. Il y a une inaction, il y a une paralysie. Vous avez des jeunes qui ne veulent même plus aller à l'école parce qu'ils croient qu'il n'y a plus de futur. Donc maintenant, il faut montrer qu'il y a des solutions, il faut remettre de l'action, il faut remettre de l'espoir et il faut un porte-drapeau à cette action climatique. Et c'est ce que Climate Impulse, puisque c'est le nom de ce nouveau projet, entend faire. Montrer qu'on peut faire des choses a priori impossibles avec des technologies propres, avec des énergies renouvelables. Et l'hydrogène aujourd'hui est un sujet qu'il faut absolument mettre au cœur du développement énergétique et climatique.
Après Solar Impulse, en quoi ce projet-là va ouvrir d'autres technologies, d'autres défis, selon vous? Qu'est-ce qu'on va savoir faire de plus?
Oui, avec Breitling Orbit Air 3, le ballon, c'était sans escale, mais avec beaucoup d'émissions de propane, donc de carbone. Solar Impulse, c'était avec 16 escales, mais décarboné, et avec un avion qui n'était vraiment pas très pratique à utiliser, qui volait à 45 km/h. Maintenant, un vol autour du monde, sans escale, sans aucune émission, avec un avion qui est opérationnel avec plusieurs places à bord, c'est vraiment une manière de montrer que les secteurs les plus difficiles à décarboner, donc l'aviation, peuvent être décarbonés. Et si vous arrivez à le faire dans le ciel, vous arrivez à le faire absolument partout. C'est ça l'exemple qu'il faut montrer.
Elham Kadri, pourquoi une multinationale comme Syensqo s'engage dans un tel projet? Qu'est-ce que vous allez vous y chercher en tant qu'industriel?
C'est la science au service de l'aventure et de la durabilité. Nous étions déjà avec Bertrand Piccard, c'est une longue histoire entre nous, de génération en génération, de son grand-père qui était un ami d'Ernest Solvay, qui était allé dans la stratosphère, qui est dans les photos des conseils de Solvay 1911-1927, regardez Google, jusqu'à Solar Impulse, et aujourd'hui le vol ultime. Sans émission et sans stop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va amener des matériaux composites pour faire d'hydrogène. On est dans le cœur du réacteur, c'est des membranes qui transforment l'eau en hydrogène. Grâce au renouvelable, on l'appelle l'hydrogène vert. On le transporte, on le stocke parce que l'hydrogène liquide, il doit être stocké à moins de 153 degrés C. Donc, c'est proche de la température zéro, du net zéro. Donc ça, c'est très important de le faire avec sécurité et sans fuite. Et ensuite, cet hydrogène doit être transformé en électricité avec des piles à combustible. Là aussi, on y vient parce qu'on a des matériaux. En plus de tout ça, il faut des composites pour alléger l'avion. C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui dans l'aviation civile, de la défense, etc. Dans l'aérospatiale, hein, parce qu'on a déjà une expérience extraordinaire dans l'aérospatiale pour manager l'hydrogène. Donc l'allègement de l'avion, produire de l'hydrogène, le stocker, le transformer en électricité, tout ça c'est très important.
Le but d'une expérience, d'une exploration pour un industriel, c'est d'aller tester aussi, c'est un peu un laboratoire. Vous voulez des applications dans d'autres secteurs à l'avenir?
Absolument.
Qu'on va tester sur ce point.
Non seulement on va tester de nouveaux produits qu'on appelle les thermoplastiques composites, qui aujourd'hui ne sont pas encore utilisés dans les industries parce qu'ils sont recyclables, ils sont circulaires, donc c'est encore mieux que les composites. Mais en plus, vous avez raison, on va dépasser l'aéronautique, bien sûr, c'est un showroom, c'est une vitrine extraordinaire pour l'aviation, donc ça c'est bien. Mais au-delà de ça, on va les utiliser dans la mobilité propre, que ce soit l'automobile, hein, parce que l'hydrogène peut aller dans l'automobile, peut aller dans les trains, les voitures, vos camions, vos voitures d'utilité, mais aussi tout ce qui est stockage d'hydrogène et comment le transporter et l'utiliser peut être utilisé dans des groupes électrogènes, dans les bâtiments et dans les énergies propres.
Bertrand Piccard, est-ce que le monde de l'industrie vous croit? Quand vous avez créé Solar Impulse, c'était avec sarcasme que vous avez été accueilli dans l'aviation. Est-ce que les esprits sont à présent mûrs? Est-ce que d'autres industriels croient justement qu'on peut décarboner l'aviation?
Eh bien oui. C'est vrai que j'ai été très mal reçu dans le monde de l'aviation avec Solar Impulse. Et aujourd'hui, le monde de l'aviation ne veut pas faire deux fois la même erreur. Et on est soutenu de manière extraordinaire par Airbus, par Daher Aviation, par Ariane Group, Capgemini, des entreprises qui nous ont aidés depuis 3 ans, parce que ce n'est pas un projet qu'on sort du chapeau ce matin. Ça fait 3 ans qu'on travaille avec des études de faisabilité, avec un design de l'avion, Donc maintenant, ce qu'on annonce, c'est le début de la construction qui est possible grâce à ScienceCo.
Alors on a envie de partir en exploration. À quoi va ressembler cet avion ? Vous parlez d'un appartement dans l'avion pendant 9 jours, il y aura des toilettes. Oui. Comment on crée
un petit appartement plus confortable que le Solar Impulse.
Exactement.
À quoi il va ressembler ? Comment on peut à la fois déjà, stocker tout cet hydrogène ?
Oui. Alors il faut comprendre justement que l'avion est construit autour des réservoirs d'hydrogène. Mmh. L'hydrogène va prendre beaucoup de volume, même s'il n'y a pas beaucoup de poids. Donc on a un double fuselage. Avec, dans chaque fuselage, des réservoirs cryogéniques, donc pour garder l'hydrogène liquide très très proche du zéro absolu, des piles à combustible, des moteurs électriques et des hélices.
Et une vue panoramique, et vous serez dedans.
Et alors, au milieu de ces doubles fuselages, là où il y a une aile de 34 mètres d'envergure, vous avez un petit cockpit pour deux personnes, Raphaël Dinelli, qui est le constructeur de l'avion, et moi, on va voler ensemble. Il faut toujours avoir le constructeur de l'avion avec soi quand on fait un vol comme ça. Et on aura nos deux sièges de vol cockpit, et puis derrière les sièges, une couchette, parce que le vol va durer à peu près 9 jours, une petite kitchenette avec le matériel, etc., et puis derrière les toilettes.
Ouais, mais donc il y aura beaucoup plus de place pour les moteurs, pour les réservoirs, que pour les passagers, entre guillemets. Est-ce que c'est applicable un jour, alors, à des avions de l'aviation civile, comme
on le voit aujourd'hui ? Mais oui, quand vous voyez les esquisses de l'Airbus à hydrogène pour 2035, vous voyez que les réservoirs d'hydrogène sont dans le fuselage et que les passagers sont dans les ailes.
Et il y a l'allègement. Donc l'allègement permet aussi de voler plus longtemps et d'avoir plus de place.
En quoi la question de cet hydrogène est ce pas vers la durabilité et l'âme quadrille ? Ça crée débat.
Parce que oui, ça crée débat et il y a toujours eu des débats hein, dans la science, dans le progrès de l'humanité. Donc c'est bien qu'il y ait des débats. Je pense qu'il n'y aura pas de net zéro, de décarbonation mondiale. Nous, Science Co, on va le faire à 2040, donc 10 ans plus rapidement que notre société mère avant, parce qu'on peut le faire. Ça sera un mix d'énergie renouvelable, ça sera un mix de solutions qui vont nous permettre d'aller vers ce net zéro qui est très important. Donc pour les auditeurs, l'audience, c'est 1,5 degré. C'est cette trajectoire qui est très importante, qu'on puisse tous s'aligner à cette trajectoire de 1,5. Donc voilà, l'hydrogène, c'est un autre fuel, hein, qu'il soit un petit peu le oil of tomorrow, donc le pétrole de demain ou pas. Moi, je crois en l'électrique. Je crois en l'hydrogène vert et je crois en d'autres sources d'énergie. Nous, on utilise les biomasses, le solaire, l'éolien. En fait, on est agnostique. On veut une énergie abordable 24 heures sur 7, 365 jours l'année.
En quoi ça va avoir aussi des incidences sur l'industrie européenne ? On est avec des plaques tectoniques mondiales. L'Europe est en train de se repositionner. Oui. C'est une nécessité, en fait, pour l'Europe d'investir.
C'est crucial.
Pour une multinationale comme vous aussi.
C'est crucial pour l'Europe. L'Europe, ce n'est pas une région de fossil fuel. Hein. Il n'y a pas de pétrole vraiment dans l'Europe, si on exclut, bien sûr, la Russie et autres. Et on l'a vu, le wake-up call, hein, l'alerte qu'on a eue avec cette crise russe en Ukraine, c'est qu'il faut que l'Europe trouve d'autres moyens d'énergie. Et l'hydrogène vert, parmi d'autres, hein, l'électricité, enfin les batteries électriques, les énergies électriques, la biomasse reste quand même une source d'énergie importante. Mais l'hydrogène vert est là. Il faut qu'il soit à moindre coût. Aujourd'hui, il est entre 7 et 8 euros le kilo. Il faut qu'il devienne à moins 2 euros le kilo, surtout pour les industries qu'on appelle hard to abate, donc qui sont énergivores comme les nôtres. Et donc, il faut la mise en échelle. Il faut des permis plus rapides et il faut la mise en échelle en Europe.
Quand Bertrand Piccard explique qu'il veut dépasser cette éco-anxiété, ce marasme un peu ambiant, où on oppose justement la question industrielle et la question écologique, elle est au cœur de tous les débats, hein, y compris avec les agriculteurs, l'environnement et encore la Commission européenne hier. Ça vous parle aussi, ça, de dire à un moment donné, c'est la technologie qui va être la solution à ces défis-là uniquement ?
Non, c'est l'humain qui va être la solution. L'humain, moi je suis humaniste, je pense comme Bertrand. Comme le fondateur Ernest Solvay, une humaniste qui se trouve être scientifique. Et je crois que l'ingéniosité humaine trouvera des solutions comme on l'a fait tout au long de l'histoire de l'humanité. Et la science, c'est quoi ? La chimie et autres sciences, c'est quoi ? C'est qu'on va trouver des solutions aujourd'hui et demain de ce qui était un problème hier. Donc oui, j'y crois en l'ingéniosité, surtout de nos enfants.
Parce qu'il a vous avez dirigé Solvay.
C'est de l'espoir.
Qui est une multinationale de la chimie polluante. Et donc ce débat-là, on vous l'a souvent opposé.
Oui, oui.
En quoi un groupe comme Solvay s'inscrit dans la durabilité alors qu'il produit encore autant de...
Bon, je suis porte-parole de ScienceCo aujourd'hui, bien que je suis fière de mes 5 ans chez Solvay. Et j'ai lancé de belles sociétés.
C'était au cœur de cette
transition-là. Non, mais la chimie, c'est une science. En fait, on diabolise des fois les sciences ou des choses. Le tableau de Mendeleïev, le carbone et la chimie ne sont pas l'ennemi. ne sont pas l'ennemi. La science est là pour trouver des solutions. La chimie a fait partie du problème, comme l'aviation. Hein. Donc c'est ce que Bertrand Piccard va faire avec cette aventure humaine, écologique et technologique, c'est de démontrer que les sciences sont au service de la durabilité.
Parce que ça continue de faire débat. Faut quand même dire que ce qui est important, c'est ce qu'on fait de la technologie.
Oui.
Et de ne pas imaginer que des technologies qui n'existent pas encore aujourd'hui vont permettre de continuer à faire toutes les bêtises d'aujourd'hui parce qu'on réglera le problème plus tard. Ça, c'est le technosolutionnisme et on n'est pas du tout là-dessus avec Hélène Cadré. On est pour utiliser les technologies qui sont disponibles aujourd'hui. Et l'hydrogène, il faut quand même savoir que c'est le carburant du soleil. C'est quelque chose de totalement naturel. On ne part pas dans de la technologie artificielle.
Oui.
On reproduit en fait sur Terre le fonctionnement de la nature avec l'élément le plus élémentaire de la nature qui est l'hydrogène.
Et on prend l'eau, on prend l'eau, c'est de l'eau que vient l'hydrogène. On prend la molécule de l'eau, H2O2, et on produit de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Jules Verne en parlait il y a longtemps. Et sans chimie, sans science, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'hydrogène vert, il n'y a pas de Green Deal, de pacte vert, il n'y a pas de connectivité chez vous. C'est ça qu'il faut dire à vos auditeurs aussi.
Parce que sur cette question de la durabilité, il a encadré l'actualité, rythme aussi, encore et toujours.
Oui.
La question des PFAS a énormément rythmé l'actualité chez nous. Et encore récemment, le groupe Solvay, que vous avez dirigé, vous ne le dirigez plus, est pointé, notamment pour une usine en France avec des taux de PFAS extrêmement élevés. Et il y a toujours ce débat en quoi les normes qu'on applique maintenant ne sont pas appliquées par les industriels parce qu'elles ne rentrent pas en vigueur. Comment vous réagissez à ces éléments-là?
Je réagis positivement encore. Les choses évoluent. Moi, les PFAS, quand je suis arrivée en 2019, vous l'avez vu chez Solvay, donc j'en ai fait un de mes projets phares. Et donc, on a quadruplé nos investissements pour sortir des PFAS surfactants chez Solvay. On a en fait mis 100 collaborateurs qui travaillent juste sur des solutions non surfactants, donc sans surfactants. Des PFAS, on a sorti une usine.
Mais il y a eu de la pollution, comme dans cette usine de Salindres, par exemple
L'usine de Salindres, aujourd'hui en France, ne fait pas partie du périmètre de la nouvelle Syensqo. Donc, vous pouvez comprendre que je ne peux pas commenter ce qui apparaît dans la presse. Mais en tout cas, que ce soit les PFAS ou toutes les, je dirais, les technologies anciennes qui doivent évoluer, qui doivent changer, il faut le faire, il faut le faire rapidement. Donc, il y a un sens et une urgence climatique sur le CO2 et il y a une urgence aussi sur les produits comme les surfactants PFAS.
Dernière question, Bernard Piccard, vous volerez quand? Quand est-ce qu'il va voler cet avion?
2028.
Défi.
Et entre-temps, la construction, les tests en vol, beaucoup de suspense. Venez nous voir sur le lieu de la construction.
On mettra caméra sur votre avion pour vous suivre en direct.
Absolument. Ah, ça, comme tous les collaborateurs.
On vous appellera pendant les 9 jours du vol pour voir comment...
En direct depuis...
Je répondrai au téléphone.
Faites attention à ce que vous promettez.
Rendez-vous est pris 2028. Merci beaucoup, Bertrand Piccard.